8h25 minutes en ce vendredi matin ensoleillé, encore un peu froid, le vortex polaire qui nous quitte tranquillement, mais on était à moins 17 degrés. Ça va se réchauffer. Moins 9 sera le maximum qu'on va atteindre cet après-midi. On a de la belle visite en studio ce matin. Sol Zanetti est avec nous, député Jean Lesage. Et ça, c'est nouveau là, de cette semaine, critique de Québec solidaire en matière d'éducation. Monsieur Zanetti, bon matin.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de l'invitation.
Bravo. Chapeau pour Merci. Ce nouveau défi, rôle, mandat ouais. en tant que critique Québec solidaire en matière d'éducation. Comment on prend ce nouveau rôle, ce nouveau défi?
Ben moi, je suis super enthousiaste parce que ça va vraiment être... il va y avoir de l'action en éducation. Moi, j'ai enseigné pendant 10 ans aussi. Là. Ouais. En fait, enseigner, c'est l'affaire que j'ai faite le plus longtemps. J'ai enseigné au cégep, donc c'est pas au secondaire ni au primaire, mais... quand même, l'éducation, je connais ça, puis ça me passionne. Là. Et là, moi, ce que je vois venir, c'est beaucoup de compression en éducation. On va couper jusque dans les services essentiels. Hier, je voyais que des écoles en Montérégie, il y a des profs qu'il faut qu'ils demandent la permission pour imprimer en couleur. Ça n'a pas de bon sens. Puis on coupe dans toutes sortes d'affaires. Fait qu'il y a ça, puis aussi la question des inégalités, là... Le système québécois est devenu, hein, depuis les dernières décennies, là, le plus inégalitaire au Canada, c'est-à-dire le système qui fait en sorte qu'il y a la moins grande égalité des chances puis qu'il y a le plus d'élèves qui réussissent pas parce qu'on leur donne pas tous les mêmes moyens. Fait que ça, moi, ça, je trouve ça inacceptable puis je veux faire avancer ça au Québec.
Vous héritez d'un dossier qui est quand même... assez complexe, ouais. Beaucoup de choses probablement à changer. T'sais, à première vue, quand on regarde ça, manque de main-d'œuvre, manque d'école, manque de place, trop d'élèves dans les classes. C'est un gros dossier quand même, ce qui se passe avec l'éducation au Québec. Hein?
Oui, c'est un gros dossier, mais c'est passionnant. Il y a tellement de monde qui réfléchissent là-dessus depuis des années, là, autant t'sais, des parents, des citoyens, du monde du milieu, des enseignants. Puis il y a plein de solutions qui viennent de la base, du monde qui sont dans ce système-là puis qui le font rouler. Moi, je pense que c'est ça les bonnes solutions desquelles devrait s'inspirer le ministre. Ça va être mon message à Bernard Drinville là, toute la session.
Le dossier de l'éducation peut un peu ressembler à celui de la santé, dans le sens où c'est tellement gigantesque. Ouais. Il y a tellement d'écoles comme en santé, il y a tellement d'hôpitaux, puis il y a tellement d'étages qu'on se demande par où on doit commencer. Puis aussi, à la base, sont où les premiers gros problèmes? Comment on fait pour les identifier? Puis si-tu... trop gros pour pouvoir être changé rapidement, en quelques mois, quelques années même?
Ouais. Bien, c'est immense, mais tu sais, le problème de fond, dans le fond, que vous nommez, là, c'est qu'on a tellement centralisé les affaires, et en santé et en éducation, dans les dernières décennies, là, la réforme Barrette, puis là, l'abolition des commissions scolaires. Puis ce que ça fait, c'est que ça devient des grosses machines. Là où tu avais plein de petites machines, si on veut, où... il y a une proximité. Tu sais, les profs peuvent aller voir leur directeur d'école puis dire « Hey, ça marche pas, on fait ça de même. » Puis lui, il peut dire « Oui, on le change. » Là, aujourd'hui, il faut que je demande aux commissions scolaires. Puis là, la commission scolaire demande au ministre. Puis là, ben, ça vient que ça a plus de bon sens. Tu sais, mettons Santé Québec, là, ouais. C'est rendu le plus gros employeur au Canada. Comment tu veux que ça marche bien? Tu sais, dans le sens que faut décentraliser le pouvoir et les décisions.
Revenir au entre guillemets, petit peuple, ouais. C'est pas péjoratif, mais revenir au monde.
Bien, aux petites institutions qui sont agiles. Tu sais, il y a bien du monde, des fois, dans le système de santé, ils ont l'impression d'être dans une espèce de machine, ils sont juste des numéros, ils n'ont pas tort. Puis là, il y en a qui, à cause de ça, ils disent « Ah, mais tu sais, je préfère travailler dans le privé parce que on est une bâtisse, on s'organise, je connais tout le monde, on peut changer des affaires facilement, j'ai un impact sur mon milieu de travail. » Mais Colin, ça a été ça, à un moment donné, le mouvement le milieu de la santé publique. Puis il faudrait revenir à ça, tu sais, des CLSC où est-ce qu'ils peuvent s'organiser, ils ne sont pas obligés de demander la permission à 8 millions de paliers de bureaucratie pour avancer puis acheter une imprimante. Fait que c'est ça le problème. Les gouvernements là, du PLQ puis de la CAQ, ils ont pensé qu'on allait sauver de l'argent en centralisant. Puis là, finalement, on s'est mis dans une bureaucratie qui paralyse puis qui déprime le monde. Fait que moi, je pense qu'en éducation, c'est aussi ça. Et on doit donner du pouvoir local puis des moyens, là, de l'argent, Colin, pour faire des photocopies couleurs. Tu sais, juste un exemple. Les professeurs de la Montérégie, là, du centre de services scolaires, là, le matin, ils arrivent, ils disent « Ah, t'as peu, j'ai un cours de telle affaire, il faudrait que je fasse des impressions couleurs. » Ils peuvent pas juste aller au photocopieur puis le faire. Il faut qu'ils demandent la permission à un gestionnaire. Le gestionnaire, il arrive, penses-tu que c'est sa première priorité d'approuver les photocopies couleurs?
C'est pas haut sa liste, là.
Ben non. Fait que là, c'est sûr que le prof, il se dit « Ben, regarde, ça vaut même pas la peine de faire des photocopies couleurs, ça arrivera pas à temps, puis tant pis, j'en ferai pas. » Tu sais, fait que ça n'a pas de bon sens. Des économies de bout de chandelle qui compromettent la qualité de l'éducation.
Autre changement chez Québec solidaire, M. Clich-Rivard qui remplace M. Leduc comme leader parlementaire, à part que c'est une nouvelle année, puis on revient du congé des fêtes. Y a-t-il autre raison pour laquelle on brasse la soupe chez QS? Ou?
Ben, c'est que, tu sais, les responsabilités, c'est comme un espèce de gros casse-tête que, tu sais, des fois, mettons, il manque une pièce, puis là, tu tasses une pièce, là, que tu tasses tous les autres, là. Fait que là, mettons, Ruba Gazal qui devient coporte-parole, ben là, elle peut pas être et coporte-parole et porte-parole en éducation puis en toutes ces autres affaires. Fait que là, ben, mettons, moi, je prends éducation, mais okay. Là, moi, je délaisse les affaires. Fait que ça fait comme un peu bouger tout le monde. Puis aussi, à un moment donné, on se dit, ah, tu sais, quand t'as un certain rôle à un certain temps, c'est comme si, quand ça fait un an ou deux, c'est pas mauvais de rebrasser pour dire, OK, on amène une autre personne avec une autre vision. Puis tu sais, Alexandre, lui, le Duc, il se retrouve à porter le dossier environnement. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'on cherche toujours des nouveaux angles, des nouvelles idées pour faire parler d'environnement. C'est pas évident que ça lève, là, surtout que des fois, l'environnement, c'est un peu déprimant avec la situation de la planète. Fait que, tu sais, changer de temps en temps, ça fait qu'on va amener des idées nouvelles. Je pense que c'est positif.
Parlant de votre co-porte-parole, M. Zanetti, ouais. Ruba Gazal, vous m'ouvrez la porte et je veux juste bien citer. Êtes-vous aussi de l'avis, êtes-vous d'accord avec Ruba Gazal, attends, je l'ai, que Elon Musk est un multimilliardaire psychopathe?
C'est un multimilliardaire et c'est un psychopathe. Je veux dire,
il y en a un que c'est un fait, l'autre peut être plus l'opinion.
Ben, c'est une opinion, mais tu sais, honnêtement, quand on regarde la définition de psychopathe sur Internet, puis il coche pas mal de cases. Je suis pas un expert en santé mentale puis en criminologie, là, mais je trouve que c'est un homme dangereux. Tu sais, il a fait des saluts nazis, là. OK, on va arrêter de dire qu'il voulait envoyer des cœurs puis tout ça, là. Il a fait des
saluts. Je sais pas si on peut l'affirmer aussi clairement que ça. Est-ce que c'était son intention de le faire, puis est-ce qu'il l'a fait? Ça, c'est peut-être différent, puis c'est peut-être là-dessus qu'on peut débattre.
Ouais.
Mais est-ce que... Moi, je peux pas croire qu'il est assez fou pour avoir volontairement fait un salut nazi. Je ne peux pas croire.
Ben moi, je le crois. Il l'a pas dénié. Tous les spécialistes là, qui interviennent dans les derniers jours sur la question de l'histoire de ce salut-là disent « c'est pas un salut romain, c'est pas donner des cœurs, c'est vraiment un salut nazi ». L'autre affaire, c'est que Elon Musk, il n'y a plus des partis d'extrême droite. Là, en Allemagne, l'AFD, là, c'est un parti qui est lié aux néo-nazis. Puis lui, il les appuie publiquement, super, de façon très décomplexée. Puis même l'extrême droite française ne veut pas siéger au Parlement européen avec l'AFD tellement il les trouve néo-fascistes. Fait que Elon Musk, là, il a choisi son camp. Il est super clair dans ses intentions. Je pense qu'il faut le croire là-dedans. Puis moi, ça m'inquiète de voir que ce gars-là, il n'est pas élu. Il va avoir un pouvoir incroyable qui s'est fait donner par Trump aux États-Unis pour couper, je pense, je me souviens plus exactement, mais je pense que c'est 2000 milliards de dollars dans les services publics ou dans l'administration publique. Puis, ils sont comme une gang de milliardaires, tu sais, qui possèdent plein de réseaux sociaux puis plein de compagnies super importantes et tentaculaires. Puis là, ils prennent le pouvoir avec un agenda politique inquiétant. Fait que moi, je pense que, tu sais, c'est comme si on a étudié, là, tu sais, quand... On a, à l'école, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, on pensait que ça reviendrait jamais, ces affaires-là de fascisme. Puis encore, je pense qu'on est dans une période où est-ce qu'on peut comme pas y croire que c'est ça qui est en train de se passer au Sud. Mais hey, le gars, il parle d'annexion. Là. Il veut annexer le Canada, le Groenland, renommer le Golfe du Mexique, porter atteinte aux balises démocratiques de l'État américain, menacer le droit des femmes, menacer le droit des minorités, expulser 20 millions d'immigrants sacrement. Mmh. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe là. C'est très inquiétant.
Revenons à Ruba Gazal parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment ce... J'allais dire 109 longs. On s'entend, elle est là depuis un bout, mais son nouveau rôle, à la entre guillemets, tête de Québec solidaire, il y en a qui aiment ce 109-là. Est-ce que c'est elle l'avenir, le plus grand visage important de l'avenir de Québec solidaire maintenant, Ruba Gazal?
Bien, nous, on a toujours deux co-porte-parole. Il y a Gabriel qui est en congé parental. Il y a eu une enfant, une fille. Il va revenir au mois de mars. Moi, je trouve que je suis content qu'elle vienne à ce poste-là parce qu'on la voit plus. Puis, j'aime sa fraîcheur, là, son honnêteté. Tu sais, hier, ce qu'elle a dit, ce que beaucoup de monde pense tout bas là, sur Elon Musk. Puis, c'est le fun, tu sais. Il y a comme, des fois, quand tu arrives en politique, tu es incité à une grande prudence parce que, tu sais, c'est facile de créer des tempêtes avec des affirmations un peu trop intenses des fois, mais...
Haroun Boisy fait dire que c'est vrai.
C'est ça. Mais des fois, quand t'es trop prudent, ça devient vraiment plate. Puis à un moment donné, ça devient plus de vie, puis c'est même toi, tu te sens pas bien. Puis, tu sais, Ruba, elle a cette liberté-là, malgré que ça fait 6 ans qu'elle est élue, là, c'est comme... Puis je sens, à Québec solidaire, de façon générale, là, comme on a envie aussi de déboutonner le petit bouton du haut, là, puis de se relaxer un peu, puis de ça va peut-être créer plus d'action.
Ouais. J'aimerais qu'on parle de Saint-Roch un peu, M. Ouais. Zanetti. Si on jase avec certaines personnes, c'est un cas vraiment extrême, c'est la catastrophe. Ouais. Saint-Roch se vide. Pour d'autres, on va dire, c'est pas si pire que ça. Encore, on crie un petit peu au loup. Bref, qu'est-ce qu'on devrait faire avec Saint-Roch? Parce que évidemment, on le voit, ce qui se passe en ce moment. Les commerces ferment, situation d'itinérance aussi. Ouais. Et aussi l'importance de redonner une vigueur puis une beauté à Saint-Roch.
Ah, c'est sûr que la situation de Saint-Roch est préoccupante. Moi, je pense que, tu sais, quand on regarde sur le long terme, je suis pas inquiet, je veux dire, Saint-Roch va rebondir. Il va falloir trouver les bonnes solutions. C'est sûr qu'en ce moment, tu sais, au municipal, ils sont en préélection, fait que ils ont un ton super d'urgence puis d'alarme. Moi, je pense que ce qui est urgent, c'est les situations humaines, comme l'augmentation des problèmes d'itinérance, santé mentale, intervention des policiers auprès des personnes. Tu sais, le nombre d'interventions des policiers qui se fait pour des cas de santé mentale augmente. Ça, ça en dit beaucoup sur notre filet social. Tu sais, les policiers, c'est pas supposé être ça leur travail, puis... c'est un signe alarmant. Moi, je pense que c'est beaucoup le gouvernement du Québec qui est responsable de cette situation-là. Tu sais, la ville de Québec, là, c'est pas de sa faute si, tant que ça, la crise du logement, les listes d'attente en santé mentale, l'absence de services, les coupures en santé. Tu sais, en ce moment, la CAQ est en train de dire on va couper 1,5 milliard à Santé Québec. Dans la région de la Capitale-Nationale, c'est 32 millions qui veulent couper. Au moment où est-ce que ça n'a jamais été pire, les problèmes de santé mentale, les problèmes d'itinérance, tout ça, tu sais, il faut investir pour faire en sorte qu'on sorte les gens de la rue. Il y a une crise, la drogue est terrible. Le fentanyl, toutes ces affaires-là, là, c'est de la cochonnerie, ça détruit des vies, là. Tu sais, je veux dire, je pense qu'à une époque, tu pouvais peut-être déraper un petit peu puis revenir là, mais là, tu dérapes un petit peu, ça dérape vite en maudit à cause de ces affaires-là, ces cochonneries. Fait que... il faut qu'on soutienne, il faut qu'on s'aide. Puis ça, c'est sûr que c'est à la base du problème. Puis c'est pas tant la Ville de Québec qui peut toute seule. Elle peut faire des choses, là, mais elle a besoin du soutien du gouvernement du Québec. Puis nous autres, on va être là pour dire à Lionel Carman puis à Chantal Rouleau, les ministres qui sont responsables de ces choses-là, de dire là, mettez l'argent, mettez le soutien, les villes ont besoin d'aide.
Vous êtes un fervent défenseur du projet de tramway de Québec.
Oui.
C'est rare que j'ai une réponse claire à cette question-là quand je la demande à des politiciens. Je m'essaie quand même... Si le Parti conservateur du Canada entre au pouvoir et ne met pas une scène dans le tramway comme il dit présentement, est-ce que le tramway doit quand même se faire avec l'argent provincial et municipal?
La réponse est oui, sans aucun doute. Il faut qu'on aille chercher de l'argent au Canada parce que l'argent du Canada, c'est notre argent. T'sais, l'argent du Canada, c'est pas de l'argent qui vient de l'espace. C'est l'argent des payeurs de taxes québécoises et québécois. Fait que moi, ça m'énerve quand ils jouent avec notre argent. Ils disent « On va-tu vous le donner? On vous le donnera pas? » Hey, t'sais, laissez-nous faire ce qu'on veut faire avec. Ça, c'est pour ça qu'il faut faire l'indépendance. Mais moi, je pense que oui, parce que l'affaire principale, regardez, on est en 2025, pardon. En 2050, on va être 1 million à Québec. La congestion monstre dans laquelle on va se retrouver si on n'a pas d'ici là un réseau structurant là, comme le tramway, là, qui a une voie. Un réseau structurant, là, c'est comme un métro ou un tramway, ça a sa voie à lui puis ça va plus vite que le trafic, fait que c'est plus avantageux de le prendre. Fait que ça fait en sorte que du monde vont le prendre au lieu de prendre leur voiture. C'est la seule solution à la congestion. Puis si en 2050, on est 1 million puis qu'on n'a pas ça, ça va être l'enfer vivre à Québec. Il va y avoir des conséquences économiques dramatiques, des conséquences pour la santé, puis je parle même pas de l'environnement. Fait que pour moi, ça presse, il faut qu'on le fasse, coûte que coûte, peu importe, là, la partisanerie, les politiciens qui sont là, c'est une grande urgence. Puis c'est une urgence parce que ça prend 10 ans de faire ça. Là. Fait que là, à chaque année qu'on retarde, on se met dans le trouble.
Ouais, c'est frustrant, effectivement, comme je l'appelle souvent à l'émission, le bretage des gros projets ici à Québec. Est-ce que c'est de cette façon-là, parce qu'on va se le dire, on voit les chiffres, l'appui au tramway, c'est pas nécessairement un projet populaire. Nous, je sais, c'est pas officiel, puis un sondage officiel. Quand on en parle, beaucoup de textos, on n'en veut pas de tramway. C'est-tu de cette façon-là qu'on doit convaincre aussi les citoyens de Québec que ça nous prend un tramway?
Ben, je pense que il faut pas bretter, puis il faut montrer les avantages pour les automobilistes. Il y a bien du monde qui pense que ça leur servira pas parce qu'eux autres, ils vont continuer de prendre l'auto parce que le tramway passera pas près de chez vous. Mais au contraire, moins il va y avoir de tramway, plus il va y avoir de trafic. Parce que moins il y a de tramway, plus il y a d'auto, puis plus vous allez prendre du temps, ça va vous prendre du temps à vous rendre au travail, puis ça va vous coûter de l'essence, puis etc., puis le stress, les risques d'accident. Donc le tramway, c'est pour tout le monde, que ce soit ceux qui sont à côté de la ligne ou pas. Puis l'autre affaire, c'est que, c'est ça. J'ai perdu mon deuxième idée, mais ça arrive.
Non, ça arrive. Puis je vois que le temps file. Sol Zanetti, député de Jean Lesage pour Québec solidaire. Vous allez vous rappeler de ce que vous alliez dire. On va vous réinviter. Vous allez revenir. On va continuer la discussion. Il y avait tellement de sujets.
Ah, j'avais une affaire. C'est parce que dans tous les endroits dans le monde où est-ce qu'ils font des tramways, les premières phases, l'appui est toujours minoritaire à cause que le monde craigne avec raison. Ah, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va nuire à la circulation? Tout ça. Il y a toujours des craintes. Partout, il y a toujours un appui minoritaire. Puis dès qu'ils font une première ligne, les gens voient ce que c'est pour vrai, puis font « Hey, Colin, ça, c'est pratique, ça avantage les choses. » Puis tout le temps, les deuxièmes phases sont super, super, super appuyées par la grosse majorité du monde.
Bon, ben on se fera un pays sans référendum aussi.
Ouais.
Moi, pays n'importe quand, mais c'est sûr qu'il faut un appui démocratique. Non, non, avec un référendum, avec l'appui de la majorité du Québec.
Sur ce, M. Zanetti, merci de passer ce matin. À bientôt.
Merci. Red.